voix nue. Ce soir, du grand véfour paternel à ses premiers bistrots, la vérité est au fond de la marmite.
Michel Oliver, donc nous poursuivons notre voyage dans vos vies multiples. Donc vous êtes maître d'hôtel au Grand Véfour.
Oui, ça y est. Hein. J'avais quitté la cuisine pour entrer dans la salle. Ouais.
Une cuisine où il faisait chaud. Hein.
Ah, c'était pas pensable. Non seulement il n'y avait pas de climatisation, mais il n'y avait pas d'aération, puisque la cuisine donnait sous les arcades du Palais Royal à travers une grille. C'était tout. Donc, en plein service, nous étions tellement trempés des pieds à la tête qu'on était obligé de se changer entièrement, pantalons et vestes de cuisine compris. C'était pas pensable. Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même mieux. Il y a la clim, il y a tout ça, mais c'était des époques difficiles. Et je comprends les cuisiniers anciens qui se plaignaient de ces chaleurs épouvantables qu'il y avait dans les cuisines. C'était pas possible.
Et alors combien de temps vous allez rester dans ce Grand Véfour?
Eh bien, je suis resté au total 10 ans. 10 ans magnifiques. J'ai aimé le Véfour. L'entité qui était Véfour adorait mon père, moi elle me supportait largement, mais c'était un endroit magique, quoi. Tous les matins, quand j'arrivais au Véfour, j'avais envie d'applaudir, parce que cette salle sublimissime qui est là, qui attend, et qui n'était pas en fait la salle du restaurant avant. La salle du restaurant était au premier étage du Palais Royal. C'était une merveilleuse salle qui est toujours là, mais qui est réservé aux huissiers maintenant, à la chambre des huissiers qui leur appartient et qui sert une fois par an. Il m'est arrivé de rêver qu'on en refaisait un restaurant, et puis il ne faut pas trop rêver quand même. Donc cette salle du Véfour est magnifique.
Alors pourquoi il n'y a pas de terrasse d'ailleurs?
Je ne sais pas pour quelle raison.
Parce qu'une terrasse sur le Palais Royal, ouais, c'est quand même un privilège.
Ça a eu de la gueule. Hein. Et voilà l'histoire. André Malraux était très client au Véfour.
Et voisin, puisque ministre de la Culture.
Et voisin, il avait deux restaurants préférés, c'était La Serre et Véfour. Bon, et je ne sais pas pour quelle raison, il m'avait pris en amitié. Il disait bonjour à mon père et parlait à moi. C'était moi qui étais son interlocuteur. Et un jour, il me dit, Michel, j'ai envie de vous faire un cadeau. Venant de Malraux, un cadeau, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, je vais vous donner l'autorisation par décret de faire un restaurant d'été dans les jardins du Palais Royal. Le prolongement du Véfour va être dans les jardins du Palais Royal. J'ai dit, mais dans les jardins? Oui, dans les jardins. Oh, là, mais là, je le remercie, c'est fabuleux, c'est un cadeau fabuleux. Je vais voir mon père, j'ai dit, papa, je vais te dire un truc, tu ne vas pas y croire. Malraux nous a donné l'autorisation de faire le prolongement de Véfour dans les jardins du Palais Royal pour l'été. Et mon père dit, on le fera jamais. Mais papa, tu plaisantes, mais c'est extraordinaire, c'est une chance. Oui, c'est formidable pour l'été, mais les gens vont oublier que Véfour existe en hiver et on n'aura personne pendant les 9 mois d'hiver. Et il avait raison.
Argument imparable.
Il avait raison, on n'a pas fait le Véfour d'été, mais c'était quand même une merveilleuse idée.
Michel Oliver, au Grand Véfour, oui, vous aviez des voisins assez prestigieux, puisqu'il y avait Malraux, rue de Valois, au ministère de la Culture, rue du Beaujolais, au-dessus du restaurant, il y avait Colette. Et rue de Montpensier, il y avait Jean Cocteau.
Et Emmanuel Berle.
Et Emmanuel Berle et Mireille.
Et Mireille.
Qui étaient vos voisins et vos amis.
Mireille, curieusement, je ne l'ai jamais vue au Véfour. Jamais.
Elle avait un appétit d'oiseau.
Mais par contre, un jour, j'étais au Bistrot de Paris. Au Bistrot de Paris, j'avais pas de secrétaire, parce que j'estimais qu'une secrétaire, elle se fait toujours une idée du patron qui est fausse, et elle crée une barrière. Et moi, je voulais pas de barrière. Et donc, je prends le téléphone, et j'entends, je voudrais une table pour 2 personnes. Oui, à quel nom? Mireille. Mais Mireille, Mireille quoi? Mais Mireille, la seule, la grande.
Avec sa voix très perchée, hein, d'ailleurs.
Elle était géniale. Ouais.
Et la voix d'Emmanuel Berle.
Ah, la voix d'Emmanuel Berle était une voix un peu rocailleuse, un peu, mais une voix, il est couverte en permanence d'éclats de rire. Et riait beaucoup. Il s'amusait de tout. Moi, c'était un personnage qui me fascinait. Hein. Bon, pas du tout au même titre que Jean, parce que Jean m'aidait. Lui, non, c'était pas son truc. Lui, son truc, c'était être Emmanuel. Quoi. Je l'écoutais, je comprenais la moitié de ce qu'il disait, mais ça fait rien.
Et Emmanuel Berle, Mireille, moi, m'avait raconté que la nuit, à 3-4 heures du matin, Emmanuel Berle et Jean Cocteau discutaient pendant des heures sur les marches de l'immeuble de la rue de Montpensier.
Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas.
Et c'était des conversations où elle n'avait pas le droit de participer. Et il y avait un feu rouge ou vert.
Il y avait un feu, oui. Ah oui, c'est ça.
Dans leur appartement. Ah, et ouais. Quand le feu était rouge, elle n'avait pas le droit de rentrer dans la pièce d'Emmanuel. Cocteau, donc, était à l'entresol.
Oui.
Comment s'appelle d'ailleurs au Palais Royal?
Les demi-castors.
Les demi-castors, parce que c'était les merveilleuses qui étaient là.
C'était les péripapéticiennes de l'époque qui étaient à deux par ces fenêtres arrondies avec les seins nus pour appâter le client. J'en rêve, je passe là des fois, je me dis oh, et si jamais ça revenait? Eh ben non, j'ai jamais eu, jamais. C'est triste, la vie.
Votre père a commencé à faire ses émissions de télévision à l'époque ou pas encore?
Quand moi je suis arrivé là, c'était déjà une immense vedette. C'était le boss de la télé. Avec Léon Zitrone, il y avait deux vedettes à la télé, Léon Zitrone et Raymond Oliver. D'ailleurs, ils s'adoraient. Ils ne sortaient jamais ensemble parce qu'on ne savait pas pour qui étaient les applaudissements. Mais il était énorme. Il ne pouvait pas sortir dans la rue. C'était extraordinaire.
On peut dire que c'est le premier chef à avoir été médiatisé de la sorte.
Oui, c'est vraiment mon père. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que aux événements de 68, il avait fait 14 ans d'antenne. Donc, il avait commencé en 54. Et il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'on l'arrête. Car c'était sa vie. Et je peux vous assurer que là, il est mort une première fois. Le fait qu'on lui enlève ce qui était son sel, ce qui était sa raison de vivre, c'est les gens qu'il reconnaissait dans la rue, il adorait ça. Et alors, je vais vous raconter une histoire. Bon, c'est arrêté. Et mon père avait acheté une Packard, une énorme voiture. Elle était américaine. Verte. Je l'appelais l'aquarium, moi. C'était une voiture américaine de luxe, la Packard. Pourquoi? Parce que la Packard, quand il allait à Langon, dans le village de son enfance, il arrivait au volant de la Packard et c'était
l'américain.
C'était le seigneur. Et il me dit, tiens, on va aller voir ta grand-mère. On va prendre la voiture. Et nous partons pour aller à Langon. Ça se passait un an après, 69, par là. Et il faut faire de l'essence. On s'arrête à une station-service, et il y a la petite fille de la station-service qui est là. Et mon père, « Oh, bonjour, ma petite !» Et alors, la gosse se met à pleurer. Et la mère est en train de mettre de l'essence, et dit, « Vous vous rendez compte, la petite, elle ne m'a pas reconnue. » Et la femme lui dit, « Mais moi non plus, monsieur, je ne vous ai pas reconnu. Je ne vous connais pas. » Ah ! Ça a été, on a fait le reste du voyage sans un mot, sans un silence. Il était fixé sur son volant. Et je pense que ça vraiment, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que brusquement, tout s'arrête.
Comment il jouait sa scène? Parce que ses recettes de Raymond Oliver à la télé, c'était quelque chose d'extrêmement théâtral, d'extrêmement
oui,
spectaculaire.
Oui, ben, il avait ce côté théâtral à la Brasseur qui était en lui, quoi. Et il ne répétait pas. Moi, quand je faisais mes émissions de télé, je faisais 3 répétitions avec les produits là, de façon à pouvoir me faire bombarder de questions, ce que lui ne pouvait pas faire. Si je vous donne une pomme à peler, et en même temps que vous commencez à peler la pomme, je vous pose une question. Vous allez vous arrêter de peler la pomme pour me répondre. Parce que l'acte de peler la pomme va tenir votre attention, et la question, vous voulez y répondre comme il faut. Donc, il descendait en cuisine et il disait, bon, allez, on va faire une petite répétition. J'ai les produits devant moi, ma chère Ninette. Alors voilà, je fais ci, je fais ci, là, 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 là. Combien j'ai fait de temps, s'il vous plaît? Vous avez fait 11 minutes, monsieur Oliver. Très bien, je ferai bien 28 avec tout ça. Et voilà. Et c'était ça. Et alors, En plus, Catherine Langer, la merveilleuse Catherine Langer,
oui, qui, on était disait,
qui était l'aspicrine de l'époque, et qui était la partenaire de mon père dans l'émission. Les gens disaient, ouais, vous avez vu Raymond, il lui répond pas parce qu'elle ne raconte que des conneries, elle lui pose que des questions idiotes. Ça n'était pas vrai. Il ne répondait pas parce qu'il ne pouvait pas répondre. S'il répondait, il perdait le fil de sa recette. C'est pas compliqué à comprendre.
Et alors quand le fils va devenir une vedette de la radio et de la télévision, comment les égaux vont se marier, Michel Oliver?
Ah ben... Bon, d'abord, moi, j'ai commencé la radio. Vous savez comment j'ai commencé la radio, c'est tout simple. Ma camarade de l'époque était mannequin chez Courrèges, et je l'amenais au travail un matin, c'était l'époque des collections. Et Courrèges est juste à côté de Europe 1. Et là, Christiane Collange, qui était une grande vedette aussi de la radio, allait faire son émission. Elle me voit, elle me dit, Michel, tu veux pas venir me raconter une recette en direct? Mais bien sûr que si! Je suis rentré à Europe, j'ai raconté ma recette, et je suis sorti, et il y avait Étienne Moujotte qui m'attendait, qui était le patron d'Europe, de l'autre côté de la porte. Michel, tu viens dans mon bureau. J'ai été dans le bureau d'Étienne, il m'a dit, tu signes là, à partir de demain, tu es là tous les matins. Voilà comment ça s'est passé. Ça devait être en 72, par là. D'accord. Et donc, tous les matins, je racontais ma recette, à 9h-10, pendant 5 ans. Et puis, un jour, je faisais 2 recettes en direct et 3 enregistrements pour le reste de la semaine. Et un matin, j'étais dans mon bain à 9h-10 et j'allais partir travailler, j'avais enregistré, et j'écoute 9h-10. Et j'écoute et je dis, mais quel est le mauvais qui est en train de m'imiter? Et c'était moi qui parlais. Ah, oh, ça a été un choc. Je me suis rendu compte que j'y croyais plus, que j'étais au bord de la parodie et que il fallait que j'arrête tout de suite. J'ai tout de suite pris ma voiture, j'ai été voir Étienne, j'ai dit, Étienne, j'arrête. Mais tu peux pas, Michel, on reçoit 1000 lettres jour. J'ai dit, Étienne, je peux pas, je suis mauvais. J'arrête. Il m'a dit, donne-moi un mois. J'ai donné un mois, il a arrêté, mais j'avais rien d'autre. Et là-dessus, quelques mois après, la télé est venue me chercher. Enfin, pas vraiment pour faire de la cuisine, c'est Jean Lanzy, qui avait le journal télévisé d'Antenne 2, de la 2, à 20h, et qui m'a dit, est-ce que tu veux pas venir me raconter un produit à cette heure-là? J'ai dit, mais attention, si je te raconte un produit, est-ce que tu veux la vérité sur le produit, ce qui se passe, comment? Il me dit, mais oui, bien sûr. Et donc, me voilà en train de commencer à faire des émissions sur le produit. Je me souviens, c'était une année où le Beaujolais, il avait tellement plu qu'il devait faire 7-8 degrés. Donc, ils avaient été obligés de le chaptaliser à mort.
Donc, de le sucrer à mort.
De le sucrer à mort. Ouais. Et je suis en direct à l'antenne. C'est le jour de la télévision.
À une époque où c'était d'ailleurs autorisé, on pouvait rajouter 2 degrés de
pas
sucre.
Pas tant que ça. Ouais. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner, que j'ai vu. Les gens du Beaujolais, quand c'était l'année précédente, en cas que ce soit une très mauvaise année, ils achetaient des kilos et des kilos de sucre qu'ils mettaient dans une boîte en fer blanc et ils enterraient ça en cas que les douanes viennent et leur interdisent de le remonter. Trop. Et là, je suis en direct et je dis, c'est une très mauvaise année. On a été obligé de mettre, d'ailleurs, pour cette bouteille de vin qui est là devant moi, combien a-t-on mis de morceaux de sucre? Et j'avais un verre et j'ai mis 11 morceaux de sucre dans le verre. J'avais fait analyser ce qui correspondait à la façon dont le vin avait été sucré. Et j'ai dit, c'est pas un vin qu'il faut boire, c'est plus du vin, c'est de la confiture, il faut pas le boire, il faut le tartiner. Horrible. J'ai été brûlé en effigie sur la place de Villiers-Morgon. J'ai eu une intervention du ministre de l'époque.
C'était bien avant Marcel Lapierre, ça.
j'ai eu les pires choses. Mais je continuais, on me laissait faire. Et puis un jour, il y a... J'avais des informateurs. Les informateurs, c'était qui? C'était les mecs des douanes. Qui, parce que eux, ils étaient venus me voir en me disant, écoutez, c'est formidable ce que vous faites, mais nous, on ne peut pas arrêter les choses, parce que quelquefois, il y a trop d'employés, tout, etc. Donc, si vous pouvez nous aider à dire la vérité, tu parles si j'étais content, moi, qu'on me dise ça. Et donc, il y a un jour, il me dit, vous savez, monsieur Oliver, que le rhum étranger est interdit en France. On a le droit de vendre que du rhum pensé. Je dis, oui, bien sûr, je sais. Eh bien, monsieur Oliver, on vend du rhum cubain, parce que monsieur Fourcade, qui était le ministre de l'époque, a passé un accord avec Cuba pour qu'on ait des cigares, mais en contrepartie, il a fallu qu'on prenne du rhum. Oh, quelle merveille, j'ai une bouteille de rhum sous la table, je suis en direct, je suis inarrêtable. Et j'attaque, et je dis, oui, là, 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 vous savez quand même. Et tac, je mets la bouteille. Et je dis, monsieur, et je l'interpelle, je le connaissais bien en plus. c'était fini, j'étais interdit d'antenne, plus rien. Et là, au bout de quelques mois, coup de téléphone de TF1, Madame Eliane Victor voudrait vous parler. C'était une immense vedette de la. Elle faisait Dim Dam Dom, elle faisait l'état d'émission. Et j'arrive et je vois un copain à moi qui s'appelle Michel Guérard. On avait été deux chefs convoqués et on nous demande de faire sur TF1, chacun une semaine, une émission de cuisine. On accepte évidemment. Et ça se passe pas mal. Mais on est débutants, quoi. On n'est pas des lions, hein. Et il y avait un problème, c'est que Michel avait ses fans, j'avais les miens. C'était ma vraie cuisine à moi, c'est-à-dire des plats. Et Michel, c'était beaucoup plus élaboré que moi. C'est évident. Bon. Et puis là, toujours Jean Lanzi m'appelle et me dit, Michel, si tu viens sur Antenne 2, on te propose une émission toutes les semaines. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai été sur Antenne 2. Et voilà comment a commencé la grande aventure.
Et de la radio et de la télévision, qu'est-ce que vous avez préféré faire?
La télé, c'est pas possible. On dépend de tout, d'une caméra qui tombe en rade. Allez, boum, il faut tout recommencer à zéro. J'ai passé 7 ans à faire des émissions et j'ai eu peur tout le temps. J'ai eu le trac tout le temps. Et en plus, j'arrivais pas à me décoincer. Donc, j'avais un rire totalement coincé et mon père me disait « T'as le rire du chat qui pisse sur la braise ». C'est une expression que j'ai retenue. Mais voilà, quoi. Non, la télé, non. Mais
Michel Oliver, il y a un élément fondateur un peu de votre personnalité, c'est ce livre qui a été édité en 1963 chez Plomb et qui s'appelle « La cuisine est un jeu d'enfant ». J'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de ce livre, parce que ce livre avec des dessins qui sont dans un esprit très proche de Jean Cocteau. D'ailleurs, il y a une préface de Jean Cocteau.
C'était pas du tout destiné à faire un livre. Je vivais à Paris. Moi, je suis né à Langon. J'ai passé ma jeunesse dans les pattes de grand-père en cuisine, mon père aussi. Et là, mes enfants n'avaient aucun contact avec notre métier, avec ces 5 générations qui étaient là. Et je voulais qu'ils apprennent un tout petit peu.
5 générations ?
Même 6. Puisque il est bien évident que les olivers, mais avant les olivers, il y avait les cavernes. Quand mon grand-père a épousé, elle était l'héritière d'un hôtel-restaurant.
Ah oui,
et il faisait aussi la cuisine. Hein. Bon, je faisais des petits croquis, des petits dessins, et je me débrouillais le jeudi pour arriver un peu plus tard le soir, parce que c'était le jour où les enfants étaient libres, le jeudi, où il n'y avait pas école. Et je leur donnais ces petits trucs, et puis je me mettais dans un coin, et je les regardais faire la recette. Et ça m'a permis de rectifier les recettes, voir les endroits où ils accrochaient, et puis je faisais mes petits dessins. Et puis un jour, j'amène ça à Jean Cocteau, à la fameuse heure où je le voyais à 11h du matin.
Jean Cocteau était votre voisin le plus direct.
Absolument, il était juste à côté du Véfour. Donc, au lieu, moi, de déjeuner à l'heure du déjeuner au Grand Véfour, j'allais passer une demi-heure avec lui. Et là, je lui amène ça. Mais il me dit, mais Michel, mais c'est génial ce que tu as fait. Mais c'est un livre. Tu vas faire un livre qui va avoir un succès énorme. Et il me dit, à partir de là, tu n'es plus le fils de Raymond Oliver, tu es Michel Oliver. Et je veux faire la préface de ce livre. Et puis, je peux te dire une chose, je ne me suis jamais trompé. J'ai lancé Albron, j'ai lancé Jean Marais, j'ai lancé... Il me cite la liste de toutes les personnes. Et il me dit, je te lance à toi aussi. C'est pas pensable d'entendre ça. On avait comme client au Véfour le directeur de Elle, Monsieur Jean-Pierre Launay, de l'époque.
Administrateur, oui.
Et je lui montre aussi ses petits dessins. Tiens, Jean Cocteau m'a dit... Et il me dit, mais j'achète en prépublication. Elle m'achète en prépublication une chose qui n'est pas sortie. Et comme je ne savais pas qu'on pouvait réduire ou agrandir les dessins, j'ai pris un magazine Elle, je l'ai détouré au crayon et j'ai dit « ça sera la taille de mon bouquin ». C'est pour ça que le livre a cette taille-là. Je pense que le succès du livre vient du fait que je n'ai pas fait des recettes d'enfant. L'erreur qu'ont fait tous mes confrères qui ont fait des livres de cuisine pour enfants, c'est qu'ils ont fait des recettes imbéciles pour les mômes qui n'en veulent pas. C'est-à-dire, ah, je prends une tomate, je mets deux capres pour les yeux, je mets un petit trait pour ça, et voilà, la recette est faite, mon chéri, c'est fait. Mais c'est pas ça qu'ils veulent, les enfants. Ils veulent des vraies recettes, non seulement pour les manger, mais pour les offrir à leurs parents.
Les croûtes au fromage, c'est admirable.
Que d'offrir quelque chose qu'on a fait de ses mains. C'est plus le petit cendrier qu'on fait pour la fête des pères. C'est, et voilà. Et je pense que le succès du livre est venu de là. Parce que on en est quand même à la 50e édition.
Michel Oliver, votre père a réagi comment à ce livre? Ce livre pour enfants?
Alors, là, ça a été un moment difficile. Il m'a dit, tu vas me ridiculiser avec ce livre. Je te demande de ne pas l'écrire sous ton nom, mais je te demande de l'écrire sous le nom de ta mère. J'ai refusé, bien sûr. Voilà, il n'avait pas, il n'était pas du tout d'accord avec Cocteau.
Et devant le succès du livre?
Il n'a toujours pas compris le succès du livre, mais enfin, il l'a accepté, quoi. C'était normal. Et c'est ce succès du livre qui m'a permis d'avoir un petit peu de sous pour commencer à penser à avoir un restaurant à moi, quoi.
Michel Oliver, avec ce livre, vous fabriquez votre ado pour échapper à la tutelle paternelle.
Oui. C'est cette chance incroyable du fait que ça marche. C'est moi le premier, je suis surpris. Il y avait à l'époque le Salon de l'Enfance. Donc le journal Elle m'avait organisé un stand où on avait 10 enfants en même temps qui faisaient de la pâtisserie. J'avais créé des moules
en forme de... Vous avez fait aussi de la pâtisserie, d'un jeu d'enfant.
Oui, mais ça c'était la cuisine. Et il y avait de la pâtisserie, parce que faire de la cuisine pour des enfants dans un stand, c'est pas possible. Vous savez, les enfants, ils aiment trois choses. Ils aiment ce qui est sale, dangereux, bruyant. La cuisine réunit tout ça. Donc il ne pouvait pas ne pas aimer, c'était pas possible.
Quand vous décidez d'ouvrir votre premier bistrot tout seul, comment ça se passe?
Ça se passe. J'ose frapper au bureau de mon père, au premier étage, là, il ne fallait pas le déranger. Et qu'est-ce que tu veux, petit? Voilà, papa, j'aimerais savoir quel est mon avenir chez toi. Ah ben, t'es un maître d'hôtel! T'es bien maître d'hôtel, non? Ah, d'accord, ok. Donc là, je savais qu'il fallait que je m'en aille. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peut-être envie d'ambition un tout petit peu supérieure à ça. J'avais envie de créer mon truc, quoi. Et je me suis mis... c'est très marrant. J'en avais parlé un tout petit peu aux clients que je connaissais bien. Michel, le jour où vous voulez fonder une affaire... Vous m'appelez, je suis là pour vous financer. J'en avais beaucoup. Et quand j'ai été les voir, c'était pas le moment. Ah, c'est pas le moment. Ah non, là, c'est pas le moment. Et je suis pratiquement à l'agonie. Je ne vois, parce que j'ai pas assez d'argent. Il me faut plus que ça pour penser à ouvrir. Et finalement, je trouve deux associés et je peux enfin ouvrir. Mais j'avais une idée précise de ce que je voulais. Mon père avait fait un restaurant de luxe, je voulais faire un bistrot. Il était rive droite, je voulais être rive gauche. Parce que il est évident que la Seine est une barrière entre deux villes. Et je suis parti de cette idée-là. Et j'avais un vieux copain qui était génial, qui s'appelait André Allard, le restaurant Allard, rue de l'Éperon. Et Allard m'a pris sous sa coupe et il m'a dit « Michel, on va chercher ensemble. » C'est pas beau, ça? C'est extraordinaire. Un mec qui allait devenir un confrère, un concurrent, puisque je rentrais exactement dans la chose qu'il faisait. Je viens t'aider.
Dans son périmètre.
Je viens t'aider. Et c'est lui qui a trouvé cet endroit, rue de Lille, qui s'appelait les anciens établissements Poinçon, qui était un bouillon 1900, quoi. Et j'ai flashé, j'ai dit c'est là. C'était pas très loin de Saint-Germain. Et l'idée de base, de départ, c'était qu'on mette un billet de 100 francs sur la table pour deux personnes et qu'on vous rende assez de monnaie pour aller boire un verre à Saint-Germain-des-Prés. Un billet de 100 francs. Pas un billet de 100 euros. Un billet de 100 francs.
C'est les mêmes.
Mais oui, mais non, non, pas du tout. Pas du tout. C'était bien moins cher que ça. Et là, je me suis amusé à créer une carte un petit peu comme celle de grand-père à Langon. C'est-à-dire avec des plats canailles, avec des plats... Et alors, ce qui est étonnant, c'est que le succès de ce restaurant a été mais hallucinant, fabuleux. On n'a pas compris. On a été envahis. Il fallait... Mais alors, j'avais fait une bêtise. Là, une bêtise. Alors là, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. J'avais dit, un restaurant 1900, il n'y avait pas d'électricité, je veux qu'on refasse l'éclairage au gaz. Alors, on retrouve au Gaz de France un monsieur qui avait fait, un ancien, qui avait fait ces trucs-là, et Slavik, qui décorait, avait fait des plafonniers avec des miroirs, et il avait fait des lustres avec quatre points, là. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que
ça
à
chauffe.
L'époque, voilà, la chaleur était répercutée par les miroirs. Les femmes arrivaient, elles avaient 20 ans. Au bout de la moitié du repas, le maquillage coulait.
On était dans le satiricon, là, oui.
C'était monstrueux. Donc, c'était en plein hiver. Donc, je laissais des trucs ouverts pour qu'il y ait de l'aération. Mais je peux vous dire que dès les premiers jours du printemps, on a mis l'éclairage électrique.
Michel Oliver, demain, nous allons visiter vos bistrots. Ces aventures d'entrepreneurs de la gastronomie qui vous ont pas quitté. Et ça sera la dernière étape de notre voyage.
Quoi ? Eh ben, déjà ?
Oui, il y a des moments où les choses
s'arrêtent. Oh non, on peut pas arrêter là.
À demain, Michel Oliver.
À demain.
À voix nue. Réalisation Anne Pérez Franchini. Prise de son Sandrine Malon. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.